Le mercato des programmes.
L'échange estival d'émissions au sein du réseau Radio Campus France.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Uchronia. Je suis Pénélope Solette et je suis accompagnée, as usual, par le professeur John McLaughlin. Bonjour professeur.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Oh, petite voix aujourd'hui.
Je suis un peu grippé.
On fera attention à vous.
Merci.
Et pour cette séance en qualité de témoin du jour, nous recevons le biologiste généticien Julien Huxley, scientifique brillant et spécialisé dans les sciences marginales, fondateur de Regenetics. Bonjour.
Bien le bonjour à toutes et à tous.
Uchronia, les chroniques du temps latent. Au sommaire de notre émission, un épisode consacré aux dérives de la théorie de l'évolution et qui nous décrit notre rapport à l'élite humaine et aux scénarios dystopiques. Un film illustrant cette fascination que nous portons sur des êtres parfaits, capables de nous représenter et voyager dans l'espace pour le salut de l'humanité. Il faut dire que nous avons été submergés par les demandes de nos auditeurs sur le sujet. Cette séance, écrite littéralement aux petits oignons, sera en immersion complète dans le centre de formation aux opérations spatiales et militaires. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de mon environnement. Ce voyage sera ponctué de quelques respirations musicales avant de terminer par nos recommandations, évidemment subjectives, la séance Actuchronia. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière, pour ceux qui auront reconnu la musique, le film Bienvenue à Gattaca, réalisé par Andrew Niccol et sorti en salle en 1997. Un classique de l'anticipation pour s'imaginer la lutte d'un individu cherchant à progresser dans un univers où l'optimisation génétique est devenue la règle. Un film difficilement classable, à l'équilibre parfait entre futurisme philosophique et esthétique rétro-vintage. Une critique sociétale, cinématographique sur les conséquences d'une révolution de la biologie et les technologies du vivant, qui repousse bien évidemment les limites de la catégorisation et du genre. Messieurs, nous allons pouvoir aborder notre premier sujet. Alors, selon vous, quelles pouvaient être les inspirations du réalisateur et les intentions autour de ce génie génétique en application sociétale?
C'est ça qui est fou avec ce film, c'est qu'on est vraiment à la frontière avec la science-fiction. C'est avant tout un film d'anticipation. Qu'est-ce que pourrait être l'avenir? Plongé dans un environnement visuel et architectural digne de la ville de Brasilia, au Brésil.
Oui, et c'est vrai que bon, c'est un film qui fait passer un message, peut-être même des messages, et ce qui en fait un film exceptionnel, plus abordable qu'avec un livre très classique dans sa structuration, qui fait vraiment prendre conscience des risques de faire des tests pour connaître la susceptibilité à certaines maladies ou à des compétences génétiques et tout ça en dehors d'un contexte médical pur lié à une maladie, une pathologie.
Comme dit le proverbe, le mieux est l'ennemi du bien. Et évidemment, on pense tout de suite à Huxley, 84, évidemment, toutes ces œuvres d'anticipation qui nous glacent le sang et qui nous plongent dans un futur pas forcément réjouissant.
Et pas si lointain.
Oui, et ça me fait moi aussi penser à une des histoires de Jules Verne, peut-être la moins connue ou reconnue, une fantaisie du Dr. Ox, où ça se passe dans les Flandres occidentales, toute la ville va chercher à réfléchir et à demander au docteur de faire une sorte de biologie cellulaire pour soigner des malades. On est dans des sociétés qui cherchent certainement à s'optimiser, à éliminer quelque part peut-être la maladie, la pathologie, mais ça va poser des soucis de bioéthique, je pense, de questions de limites de la planète. On est vraiment dans une œuvre d'anticipation à la frontière entre le malthusianisme et l'eugénisme quelque part.
Qui rappelle évidemment toute cette obsession racialiste des scientifiques du début du XXe siècle, persuadés qu'il fallait avoir une race pure, une race absolument débarrassée de tout risque de maladie, d'absence de performance, d'enjeux intellectuels insuffisants, une volonté de créer des surhommes, évidemment, hein, à l'image de Nietzsche, et qui soit en capacité de sauver l'humanité. Ça, c'était ce rêve un peu fou que ces scientistes, évidemment, cultivaient, comme j'en ai connu quelques-uns.
Oui, c'est vrai, professeur. Il y a à la fois l'idée de la carte d'identité génétique, de l'ADN, et je pense que ça, on va en recoser. Il y a l'idée de la perfection ou de l'imperfection que l'on peut personnifier, de stigmatiser à outrance une partie de la population. Et peut-être le besoin de réajuster l'histoire et la science, hein, dans ses fondements. Alors je pense à plusieurs personnages historiques, Harry Clay Sharpe, hein, un médecin eugéniste, il y a Charles Benedict Davenport, il y a vraiment du monde.
Et que des gens effrayants.
Et effrayants parce que...
Effrayants et avec une légitimité. Prenez Francis Galton, qui a été un grand promoteur de l'eugénisme aux États-Unis, parce que ça reste quand même le cœur du film. On parle d'un mal américain. Un pays qui est obsédé en fait par les races, un pays qui est obsédé par la pureté de la race blanche en l'occurrence, et qui du coup a trouvé en fait des financements, des voies scientifiques, des voies intellectuelles, des voies administratives pour essayer de réguler réellement cette purification en orientant par certains aspects les migrants qui venaient sur leur territoire ou par d'autres en faisant l'ultime horreur, à savoir stériliser des enfants en situation de handicap pour être certain qu'ils ne soient pas eux-mêmes parents.
Et tout ça sous prétexte d'améliorer l'espèce humaine, en fait.
Alors, Pénélope, vous avez tout à fait raison, hein, le principe de Galton à la base avec cette notion d'eugénisme, c'était de littéralement proposer de bien-être, de laisser le libre arbitre après se développer de façon positive ou peut-être négative, peut-être. Mais voilà.
La perversité était même encore plus grande. Son fondement théorique, à Francis Galton, c'était de protéger les enfants des parents handicapés. Qui seraient pas considérés comme des parents justes et qui devraient au mieux voir leurs enfants leur être retirés ou au pire leur interdire la possibilité d'avoir des enfants, ce droit absolument fondamental de toute espèce mammifère leur étant supprimé par la société américaine.
Tout à fait.
Que c'est réjouissant. Cher monsieur Huxley, pardon, si on en profitait pour présenter votre activité à nos auditrices et auditeurs, s'il vous plaît.
Oui, c'est vrai que je suis l'arrière-petit-petit-petit-petit-fillot de Julian Sorrell Huxley, qui était biologiste britannique, théoricien de l'eugénisme.
Lourd héritage.
Oui, mais en même temps, il a été un des promoteurs de la vulgarisation scientifique, le premier directeur de l'UNESCO, il a fondé le World Wildlife Fund, quand même. Et c'est vrai que, alors moi j'ai travaillé pendant ma thèse de doctorat, j'étais en capacité de séquencer l'ADN humaine et à pouvoir modéliser les brins et à fortiori leurs particularités, pouvoir visualiser les interactions de l'ADN dans la cellule. Et donc, soit je cherchais à corriger la vie des cellules en ce qu'on appellerait en étiologie chirurgicale. Et pour moi, ça passait de la stimulation inductive, comme on dit, par implantation de puces RFID actives.
Ce qui peut être particulièrement dangereux, quand même. Faut-il le préciser ? Vous abordez ça avec une légèreté qui est quand même un peu déconcertant.
Alors, je vous rejoins tout à fait, professeur, et mon chemin n'a pas été dans cette direction. Sachant aussi que... On est en recherche constante de liberté et que chacun n'accepte pas de son plein gré une implantation exogène. Et donc, face à ce constat, moi j'ai plutôt développé une application opérable avec un robot chirurgical. On a des doctorants dans le laboratoire qui ont servi de bêta-testeurs de matériel, de robots à destination militaire ou industrielle. Et moi, ça a été plutôt l'idée d'essayer d'identifier, optimiser certaines caractéristiques pour supprimer des vices génétiques. Parce qu'on observe aussi au quotidien que des parents, si on identifie à la première échographie qu'il manque un doigt ou qu'il y a peut-être une tare dans le développement susceptible, moi je préférais essayer de corriger, de supprimer ces gènes, et c'est encore plus facile de pouvoir opérer ça avant le développement cellulaire, donc soit sur le spermatozoïde, soit sur le début du fœtus, parce qu'il faut pouvoir corriger l'intégralité des cellules et de l'enregistrement de l'ADN. Il faut voir que l'ADN, c'est un peu comme notre manuel, notre dictionnaire de comment on doit fonctionner. Et donc, mon parti pris, et à l'aune de mes ancêtres et du lourd poids de mon grand-grand-grand-père, c'était plutôt modifier l'ADN d'un fœtus plutôt que de voir les parents avorter et ne pas permettre à cette vie de se développer. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans ce film « Bienvenue à Gattaca mm-hmm. ». Cette possibilité de se surpasser, quel que soit le destin, quelles que soient les probabilités.
C'est tout le nœud du film, d'ailleurs. En fait, le principe est assez pragmatique. Cette civilisation humaine, à l'aube probablement du 21e ou du 22e siècle, vit une épopée et une conquête spatiale. Elle envoie régulièrement des éléments plutôt jeunes et intellectuellement charpentés dans l'espace pour participer à la conquête planétaire et extraplanétaire. Et donc, forcément, vous êtes une société un peu structuré, vous envoyez des éléments qui ne risquent pas de vous faire un arrêt cardiaque, un cancer sur Mars, une hépatite fulminante sur Saturne ou des hémorroïdes sur la Lune.
Oui, c'est l'objectif de limiter les risques au maximum. Ça n'empêche pas.
Ouais. Après, imaginez-vous quand même, si on avait sélectionné la génétique, on aurait peut-être renoncé à un esprit aussi brillant qu'Elon Musk sous prétexte de signes autistiques précurseurs.
Ah, ça n'empêche pas.
Dommage.
Et la réflexion pourrait être, est-ce qu'on on peut corriger certaines tares génétiques, mais les défis...
Jusqu'à quel point ?
Jusqu'à quel point ? Et est-ce que les défis, c'est pas de peut-être sélectionner, identifier le gène de la connerie ? Mais qu'est-ce qu'on ferait d'une population qu'on aurait normée, peut-être affaiblie face à des envahisseurs barbares ?
Le problème, c'est surtout les géniteurs qui voudraient en fait que chacun de leurs enfants soit un petit Mother.
Je vous remercie, monsieur Exet, pour cet éclairage et cet échange avec le professeur. J'espère que tous les services juridiques sont à pied d'œuvre. Je voulais qu'on aborde maintenant notre deuxième sujet, que je pensais cette fois-ci tourner vers les étoiles pour notre séquence Mitch and Pitch. Alors, qui se lance ?
Oh, avec plaisir. Je suis un grand fan de Bienvenue à Gattaca, d'ailleurs. La composition de Gattaca rappelle évidemment les éléments du code ADN. Guanosine, adénosine, thionine et je ne sais plus.
À vos souhaits.
Je vous en prie. Dans un futur proche, donc, la société est divisée en deux. Une sous-classe résultante de naissances naturelles à l'ancienne, avec un papa et une maman.
Les enfants de la destinée, comme ils s'appellent.
Les enfants de la destinée, faits manuellement. et une classe dominante, dans laquelle les individus sont nés, génétiquement modifiés et choisis surtout, pour des questions de longévité, de maladie, mais également de performance intellectuelle. Le héros, Vincent, donc, est le produit de la reproduction naturelle et sympathique de ses géniteurs, mais souffre d'une insuffisance cardiaque, lui laissant une espérance de vie de 30 ans, voire un peu plus. Vincent défie son destin et entre sous une fausse identité à Bienvenue à Gattaca, qui est l'organisme en charge de la conquête spatiale, un programme d'entraînement destiné aux astronautes en vue d'une mission spatiale. Vincent donc emprunte l'identité génétique d'un athlète paralysé, Jérôme. Lorsque l'un des superviseurs de Gattaca est assassiné, les enquêteurs découvrent la présence de l'ADN réel de Vincent, donc son ADN non falsifié. Il devient donc alors le suspect et fait tout pour continuer à agir de façon indépendante et masquée. L'assassin est finalement rattrapé. Vincent dépasse l'âge de 30 ans et parvient à réaliser son rêve d'astronaute et conquérir l'espace, l'infini et l'au-delà, bien sûr.
Ah, vous dites le héros, mais moi je vois plutôt ça comme un trio, puisqu'il y a donc Vincent, celui qui trompe son monde, il y a Eugène, celui qui lui prête son ADN, et puis il y a Irène, jouée par Uma Thurman. Pour moi, ça fait donc un trio de vedettes plutôt que...
Oui.
Un seul héros, non ?
Oui, tout à fait.
Hein, qui est quand même la star du film, qui sortait de multiples succès, notamment Pulp Fiction, et qui évidemment a permis en fait la promotion du film.
Et des deux autres acteurs, par la même occasion.
Les autres acteurs étaient plus confidentiels.
Voilà.
Ouais. Et c'est vrai qu'Andrew Niccol, il nous habituera, suite à ce film, à des films intelligents, pas barbants, hein. Mais je pense au Truman Show, à Simone,
Lord of War,
Il va ouvrir en fait à Hollywood la possibilité de faire du cinéma d'auteur,
oui.
Ce qui effectivement était possible dans une certaine composition américaine. Il y a eu de multiples films comme Clerks qui ont eu aussi du succès, mais là il se proposait en fait de faire du cinéma grand public mais d'auteur.
Ouais, et il veut aussi taper dans le fond du bol, hein, comme on dit dans le milieu, parler de handicap, de tromperie, et essayer de détourner le système, et de pouvoir montrer les failles d'un système qui semble parfait en outre mesure. Hein.
Je trouve que ce film était l'exemple parfait de ce qu'on essaye de faire comme distinction entre science-fiction et anticipation. Dans quelle mesure ce film n'est pas en fait à la frontière de l'un et de l'autre. La société évoquée dans Gattaca, par exemple, elle ressemble quand même étrangement à la nôtre, voire une impression qu'elle se rapproche dangereusement en fait de la nôtre.
Oui, bah c'est un film qui nous montre que distinguer les individus en catégories, sains, malades, valides, handicapés, instruits, ignorants, c'est comme vous dites, hein, tout à fait notre société actuelle qui se rapproche de ces dichotomies.
Hein. La force est réellement de créer une dystopie, une réussir à vous plonger en fait dans un monde de futur proche qui vous semble tout à fait accessible et effrayant par certains aspects, puisque effectivement avoir la possibilité de choisir génétiquement sa descendance, c'est intéressant, ça permet d'avoir des enfants qui ont une longévité, qui ne meurent pas en couche, qui ne contractent pas de cancer à l'enfance, enfin je veux dire toute une somme de souffrances qui semble légitime d'écarter, mais jusqu'où va-t-on ? Est-ce qu'on a envie d'avoir un docteur en maths ? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui mesure plus d'1m90, blonds yeux bleus ? À un moment, où s'arrête la limite ?
Et c'est le risque du monde normé, du monde sans surprise, à la recherche de la perfection. Qu'est-ce qu'on fait à force si y a une faille exogène qui vient perturber ce monde que l'on estime avoir entièrement contrôlé ?
Trop lisse quand même.
Un peu comme Thibaut InShape.
C'est ça, hein, ce monde parfait.
Écoutez, merci messieurs pour cet échange passionnant. Je vous propose maintenant une petite respiration musicale inspirée évidemment par notre sujet du jour, Perfect Day, interprété par Lou Reed.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Ne cherchez pas à changer de station, vous êtes bien sur Uchronia. Uchronia, les chroniques du temps latent. Professeur, cette fois, je me tourne vers vous.
Oui.
Je crois que vous vouliez évoquer aujourd'hui un fait qui vous tient particulièrement à cœur. Vous lancez, je crois, une distinction honorifique cinématographique, le culte homatique.
Ah, le culte homatique, oui. À un moment, il faut faire avancer la société. Et je pense que, modestement, donc, aborder ça par le biais de l'objet culturel qu'est le cinéma est intéressant. Alors, les faits, donc, pour moi, Bienvenue à Gattaca est l'incarnation de ces œuvres que nous traitons dans cette émission. Et ces films qu'il faut vraiment voir, revoir, s'en inspirer pour nous effrayer et en même temps temps...
Nous questionner.
Évidemment, il faut bien se transposer dans un monde que nous ne connaissons pas encore. Si on avait pu montrer à tout l'électorat d'Adolf Hitler les horreurs de l'Holocauste, ça aurait été plus intéressant que les rencontres de Nuremberg. Et donc, pour faire connaître un petit peu, évidemment, ces propos défendus par ces films brillantissimes, je vous propose donc d'introduire officiellement, mais métaphoriquement bien sûr, je ne vais pas le faire physiquement, hein, donc pourquoi ce film mérite la postérité et d'entrer au patrimoine mondial, culturel, immatériel, potentiellement de l'ONU, si on le souhaite, bien sûr. Et notamment par sa facture esthétique rétrofuturiste.
Voilà, je suis pour, je vote pour.
Voilà, qui me rappelle Oscar Niemeyer, enfin, voilà, des choses absolument brillantes.
Alors, professeur, bon, moi, je souscris à votre projet.
Cultomatique, cultomatique.
C'est très bien et original. Voilà. Il faut quand même voir hein, qu'en 2011, hein, la NASA, mm-hmm. La société spatiale américaine, a officiellement décrété que Bienvenue à Gattaca était le film de science-fiction le plus réaliste au monde.
Plausible.
Le plus plausible de l'histoire du cinéma. Et c'est vrai que la puissance de l'œuvre, elle n'est pas spécialement dans les effets spéciaux.
Il y en a très peu.
Il y en a très peu, mais en même temps, ça permet de se projeter dans un futur où on n'ira pas essayer de critiquer le caractère plausible des effets spéciaux et des innovations post-générationnelles. Mais on est dans une approche tout à fait convaincante et du coup qui nous laisse la possibilité de nous projeter dans ce futur.
Mmh. Ce sont des astuces de mise en scène aussi, c'est-à-dire que plutôt que de vous montrer tout un aéropage de gadgets technologiques à la James Bond, ils ont préféré la pureté de l'architecture intérieure, les commandes vocales pour exécuter la plupart des tâches automatisées, et puis évidemment les voitures électriques.
Mmh. Et professeur, vous venez de le dire, De mémoire, hein, le générique d'ouverture du film Bienvenue à Gattaca est devenu à l'époque le générique de film le plus révolutionnaire, le plus esthétiquement chouette, qui venait de surpasser justement les films de James Bond où on avait un générique super visuel. Et tout à l'heure, vous abordiez hein, les fameuses lettres et les initiales qu'on retrouve dans ce générique. Vous pensiez certainement à la guanine, adénine, thymine ou cytosine. Hein.
Cytosine.
Ouais.
Donc, GATC et donc recomposé GATTACCA, Gattaca.
Et alors, bon, c'est vrai que
qui est une séquence ADN, donc du coup qui pourrait coder pour une protéine ou qui aurait réellement un sens biologique.
Oui, et les allusions à ce brin d'ADN ou à cette double hélice ADN, on la retrouve tout au long du film, dans les escaliers, dans l'appartement, dans les escaliers extérieurs des bâtiments. On est sur une architecture dans le film faite de lignes droites, de courbes parfaites.
Et d'obsession du détail, parce qu'il faut quand même s'imaginer que pour réussir ce cambriolage, ce piratage de l'institution Gattaca, l'acteur principal, donc Vincent, doit en permanence supprimer en fait toutes ses peaux mortes qui l'identifient en tant que possesseur de l'ADN de Vincent et régulièrement en fait dispose une partie de l'ADN de son piraté, donc Jérôme, l'handicapé, en déposant des petits fragments de poils, des
de
petits
rien.
Morceaux de peau sur son clavier, des crottes de nez sur son écran, etc. Et qui permet... Vous l'avez pas vu
ouais. Pas celle-là, non, bizarrement.
Il la colle bien, quand même. Hein. Et donc, en laissant ses traces ADN de Jérôme, et surtout en supprimant ses propres traces ADN, qui lui demandent un travail laborieux. Tous les matins, il se passe le corps au grand crin. Et d'ailleurs, c'est les scènes de nu les plus fantastiques de l'histoire du cinéma où on voit ce jeune corps musclé des faibles hein, grecs, on peut le dire, d'Ethan Hawke hein, en se passant et en se massant vigoureusement la peau qui devient toute rouge d'ailleurs sous la douche.
Je vois d'où vient certaines de vos obsessions.
Et c'est vrai que...
La propreté c'est fantastique.
Essentiel.
Et c'est bon pour la santé.
Et cette esthétique, elle est hyper contemporaine parce que en effet, Irène et Vincent sont ils font l'amour plusieurs fois dans cet appartement avec une baie vitrée quand même, avec la mer qui se jette juste au pied de l'appart, enfin de la maison.
On dirait un clip de Kanye West.
Presque. Et on aurait pu croire que le réalisateur allait plutôt attirer notre attention sur les courbes de Uma Thurman. Alors, malheureusement pour moi ou pour d'autres, on voit quand même plus Ethan Hawke, mais c'est très contemporain comme approche.
Dans le corps nu est quand même omniprésent dans ce film.
Et puis, vous avez abordé ça, hein, les véhicules rétro-futuristes. On voit de vieilles voitures des années 60, dont une DS de Citroën, mais qui fonctionne à l'électricité. Ce qui fait qu'on est avec une anticipation de technologies qui ne sont pas obsolètes aujourd'hui. Hein, les systèmes de sanguins pour entrer dans les bâtiments, on aurait pu aller sur un côté digiponcture, analyse de la cornée oculaire, et non, on a été sur des systèmes qui vont analyser une petite goutte de sang. Et on voit, hein, les personnages qui sont piqués assez régulièrement.
D'ailleurs, c'est l'astuce que trouve Vincent. Dans le film, il crée en fait des petites capsules qu'il se cache sous la pulpe de ses doigts. Dans ces petites capsules, vous avez quelques gouttes de sang de Jérôme. Et à chaque fois, en fait, qu'il se fait prélever une partie de ce sang. Donc c'est le visage d'ailleurs de Jérôme qui apparaît sur les écrans. Et on voit très distinctement que ce n'est pas le visage d'Ethan Hawke, qui se ressemble un petit peu, effectivement, mais pas complètement. Ouais. Mais personne ne prête attention en fait à cette identification visuelle. Et ça me rappelait quelque part la carte vitale. Vous pourriez mettre n'importe quel visage dessus, ne pose aucun problème.
Oui, non, mais c'est tout à fait ça, professeur. Ouais.
Écoutez, merci messieurs pour ce nouvel échange. Et je vous invite dès à présent à partir dans un nouveau voyage créatif avec cette fois le titre « Oh, on n'en change pas, un monde parfait » par le groupe Les Innocents. Ne changez pas de fréquence, vous êtes bien sur Uchronia. Uchronia, les chroniques du temps latent. Alors avant la pause, nous étions sur une nécessaire compréhension des archétypes déconstruits. Je vous propose désormais de sonder l'avènement du règne de l'homme.
L'homme parfait, bien sûr, l'homme parfait. Effectivement, Pénélope, mes collègues admettent quand même, depuis ces dernières années, nous avons changé d'air. Nous sommes rentrés dans l'ère de l'Anthropocène.
Et c'est même remis en cause ces temps-ci avec des découvertes archéologiques. Hein. On voit il y a la révolution du LIDAR, de la cartographie satellitaire spatiale. Mais on découvre aussi qu'à l'époque romaine, déjà, on pouvait chercher à faire des forages pour extraire des minerais à travers du plomb et qui auraient pu déjà avoir un énorme impact hein, sur la société de l'époque, une pollution à échelle planétaire. Et c'est vrai que cette ère de l'Anthropocène, c'est souvent donc l'ère de
alors ça veut dire
la
surtout
domination de l'homme.
Stricto sensu que l'homme est en train de modifier en fait les schémas géologiques de la planète du fait de sa présence sur Terre.
Tout à fait.
Donc évidemment quand on pense aux différentes aires géologiques, on se dit chaque espèce animale a laissé ses squelettes, son mode de vie, sa végétation et a laissé une trace dans chaque strate géologique. Eh bien nous, on laissera des morceaux de plastique, des bouts de métal et puis des prothèses mal faites. Alors bien sûr, bienvenue à Gattaca, donc c'est un manifeste hein, contre l'eugénisme. L'eugénisme étant la volonté, évidemment, de contrôler le génome de la population humaine et de choisir qui a le droit et qui n'a pas le droit, surtout, d'avoir des descendants. Mais donc c'est surtout, non seulement une ode contre l'eugénisme, mais une ode évidemment aux imperfections. Et donc, s'imaginer que ces petits pirates soient capables de truander une institution aussi performante et glaçante, hein. Un système véritablement parfaitement huilé, calibré, de détection intense, de surveillance permanente, une volonté de faire des individus extrêmement... extrêmement brillant intellectuellement et surtout sélectionné pour leur qualité génétique et intellectuelle. Véritablement une société de l'élitisme génétique et donc ce jeune pirate Vincent réussit à ses fins, puisqu'il faut quand même le dire que ce film se termine bien, ou du moins il parvient effectivement à réaliser son rêve.
Oui, mais bon, on est dans un monde où les pianistes ont 6 doigts à chaque main. Hein, c'est là où on se surpasse. On est prédestiné à réussir et exceller dans un domaine qui va servir à la société rationaliste. Et là, quand même, on a un entretien d'embauche. Hein, Vincent, quand il arrive, pense qu'il va faire son entretien d'embauche, alors que finalement, le seul entretien, c'est je fais un test génétique et si c'est conforme, c'est bon, vous êtes accepté, bienvenue. À Gattaca.
C'est terrible.
Oui. Alors ce film, il pose quand même au moins 2 questions morales hein, distinctes. Est-ce qu'il est moral de modifier la nature humaine ? Peut-on agir contre nos prédispositions biologiques ?
Ah oui, ça c'est un grand écart.
Oui.
Oui, c'est vrai que tout ça met en perspective la notion même de race hein, qui est réellement est apparue plus ou moins au XVIIIe siècle, hein, pas plus tôt. Alors que les termes avaient été abordés bien avant. Henri IV, par exemple, avait présenté l'un des membres de sa famille en disant « Celui-là est de ma race ». Mais il ne disait pas « C'est un Béarnais comme moi ». Non, non, il fait partie de ma famille, il a mon sang, en fait. La race était réellement la lignée, en fait. Et progressivement, c'est devenu en fait quelque chose de beaucoup plus structuré scientifiquement, jusqu'à faire des distinguos entre races, ce que l'humanité n'a jamais fait.
Oui, et dans le film, hein, une des séquences clés, les parents de Vincent...
De Jérôme. Hein.
De Jérôme, autant pour moi. Échange avec les généticiens pour prédisposer et le scientifique répond mais moi j'ai pris la liberté de supprimer toutes les conditions potentiellement préjudiciables hein, la calvitie, la myopie, l'alcoolisme, la propension à la violence, à l'obésité et le père nous on se demandait hein, si on devait laisser quelque chose au hasard et le scientifique qui répond, vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Bah, croyez-moi, hein, nous avons assez d'imperfections comme ça dans la vie, votre enfant n'a pas besoin de tares supplémentaires. Et pour à peu près 5 000 $ de plus, on peut rajouter le don de la musique ou des mathématiques.
Donc, ne pas oublier l'argent quand même. Hein.
Ben oui, hein, on est sur une approche déterministe, quelque part.
Mais partant d'un bon sentiment, finalement.
Oui, non, mais bien sûr.
Qui ne veut pas avoir des enfants qui finissent centenaires ? Ça reste légitime. On n'a pas envie de les voir souffrir, avoir une vie difficile, avoir des difficultés intellectuelles qui les amèneraient à un mauvais parcours scolaire. On a envie de les voir briller. Et forcément, si on vous donne l'outil technologique de choisir, qui ne ferait pas le choix ? Très sincèrement. C'est bien pour ça que ce film pose les bonnes questions.
Du coup, puisqu'on en est là, messieurs, pour vous, c'est quoi les ingrédients de l'homme parfait ? Quelles sont ses valeurs ? Quelles sont ses capacités ?
Oh, l'homme parfait, c'est un homme responsable.
C'est quand même un homme qui sait s'amuser. Ah, et parce que je vous dis ça, parce que je pense à Jean-Paul Sartre qui disait même programmé, hein, l'homme n'échappe jamais à sa liberté, il est condamné à être libre. Mais la perfection n'est pas synonyme de bonheur.
Il est quand même toujours prêt à vous écouter également.
Oui, il reconnaît ses défauts, ses limites.
Il est attentionné.
Il aime danser.
Il est sincère.
Il sait cuisiner.
Il sait être sérieux.
Et il sait certainement être serviable.
C'est sûr que ça.
Ça fait quand même beaucoup.
Ça fait quand même beaucoup. Voilà. Et c'est plus de la perfection. Là, c'est de l'utopie.
C'est peut-être le surhomme. Alors, peut-être professeur, vous, ça vous fait peut-être penser à quelqu'un en particulier.
Le surhomme, à Nietzsche, bien sûr, j'imagine.
Oui. dans notre mythologie contemporaine, peut-être Superman.
Ah, Superman, le kryptonien.
Oui. Et puis, moi, je pense à Thomas Pesquet.
Ah, Thomas Pesquet.
On ne peut pas aimer Thomas Pesquet.
Tout le monde l'aime.
Peut-être qu'il se drogue, peut-être qu'il se fait aider par un jumeau. En tout cas, c'est bien fait. Il est ingénieur, pilote de ligne, premier des cadets d'Air France, polyglotte, il connaît 6 langues, ceinture noire de judo,
150 de QI,
fan de parachutisme, alpiniste, VTT.
Photographe.
Il a coché toutes les cases.
Hein. Il fait 100 de pompes tous les jours.
Oui.
Jamais pas de sexuel non plus. Enfin, c'est quelqu'un de vraiment d'admirable.
Oui, mais moi, j'aurais peut-être... moi, ça me rappelle un spectacle de Emmanuel Payet, comme il s'appelle maintenant, qui évoque quand il avait mis sa fille à l'école Montessori. Peut-être que Thomas Pesquet ne devrait plus être ce modèle que l'on cherche quand même en tant que parents tous à vouloir rejoindre, peut-être qu'on n'en peut plus de ce genre de surhomme. Peut-être dehors Buzz l'éclair. Alors heureusement, il y a Sophie Adnaud maintenant, qui est peut-être un nouveau modèle de la conquête spatiale.
Mais après, c'est un surhomme parce qu'on se le figure comme ça. Mais selon lui, pour lui, il n'est pas un surhomme.
Non,
il fait son job, c'est tout.
Peut-être qu'on rêve toutes et tous de...
Ça, c'est un projet nietzschéen, évidemment. Personne ne s'imagine être un kryptonien comme Kal-El débarquant sur Terre à l'intérieur d'une capsule. Alors évidemment, après, ça vous laisse un destin intéressant, mais évidemment, ça fait beaucoup de si.
Et puis, vous êtes sans cesse sous le regard des autres.
C'est ça.
Ce qui induit évidemment la perfection.
Avec cette fameuse maxime de Spider-Man, un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités, bien sûr.
C'était pas son oncle qui disait ça, plutôt ?
Aussi.
Après toutes ces émotions et ces débats haletants, je nous propose une autre respiration musicale, cette fois avec le titre « Creep » par Radiohead.
Float like
Special, I wish I was special, but I'm a creep, I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong.
Ne cherchez pas à changer de radio, vous êtes bien sur Uchronia. Uchronia, les chroniques du temps latent. Pour notre déjà dernier échange, messieurs, je vous propose d'inaugurer la dernière création du professeur McLaughlin, à savoir que notre studio a été aménagé spécialement pour offrir aux auditeurs une pièce dédiée à l'immersion et la simulation en limitant les risques. Parce que j'ai une petite assurance. Aussi, je propose à notre technicien, s'il vous plaît, Franquito, de lancer la procédure d'accès au McLaughlinarium.
Vous êtes sûr j'y vais?
Oui, allons-y.
Je crois qu'il faut qu'on s'accroche. Hein.
Alors, accrochez-vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et pardon pour le bruit. Oh. Alors là, mesdames et messieurs, notre plateau descend.
Oh, ouais.
Alors, et je crois que c'est. Ça se situe, professeur, de mémoire, une dizaine de mètres.
Oui, ouais, un peu plus, 25 mètres sous terre.
Et dans une pièce bunker.
En dessous du studio, je me suis dit que c'était le plus pratique. Ça me permettrait d'avoir un endroit où aller faire mes besoins.
Ah, c'est sûr que les voisins ne doivent pas vous
déranger. Attention, la tête.
Oula.
Laissez passer les machines. Ne bougez plus. Attention, oui. Voilà.
C'est chouette. Hein.
Ah bah oui, quand même, il y a un peu de travail.
Impressionnant.
C'est cosy. Alors bon, auditeur, nous voici donc dans ma salle de simulation. Le module de reproduction de scènes de film n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais je vais vous charger donc ma nouvelle intelligence artificielle générative, Brunhilde, qui va nous accompagner durant cette séquence.
Brunhilde, vraiment, ça pique un peu quand même.
C'est un prénom très répandu sous les...
En quelle année?
Sous le règne du duc de Bourgogne,
ah oui,
avec Marie, Catherine ou Jeanne.
Plus sympa.
Oui, j'aime bien.
J'en doute pas, c'est un instant.
Il faut évidemment la prédestination, c'est dépasser les barrières hein, que la société nous avait commandé et programmé. Hein.
Bah, c'est vrai que ce film est dans cette pièce de simulation. On est vraiment dans une approche où on est avec le rêve secret de chacun. Hein. On observe au quotidien les ravages de tests ADN qui sont réalisés. Moi, je le vois hein, dans notre la société Regenetics, on a la possibilité d'ajouter des gènes isolés en plus de la sélection. On peut supprimé hein, carrément des... alors, je pense à du dysphorisme, du palatlouze skin syndrome, des anomalies du système cerveux, nerveux, tout ce qui peut être mutation germinale. Et
qui reste quand même des maladies extrêmement rares.
Oui, mais quand on voilà, c'est souvent ce qu'on va appeler les maladies orphelines. Et on peut commencer à l'identifier, à le traiter. Mais ce que montre ce film, c'est quand même que on peut accomplir son rêve à force de travail et de conviction.
Ah, cela me fait penser à mon frère.
Parce que vous avez un frère.
Oui, évidemment. Comme tout le monde.
Alors, professeur, sans vous mettre dans l'embarras, est-ce que ce serait pas le fameux Harry Laughlin ?
Oh, Harry Hamilton Laughlin, qui, dans des temps reculés quand même, avait été décoré de l'université d'Heidelberg en 1936 par le régime nazi, mais bon, pour ses travaux sur l'eugénisme aux États-Unis, il faut le dire, les nazis étaient fascinés par les scientifiques américains.
Alors justement, est-ce que nous pourrions demander à Brunehilde les infos qu'elle a en magasin?
C'est le gros bouton rouge là.
D'accord.
Ici Berlin. Harry Laughlin a reçu un diplôme honorifique de l'université de Heidelberg en 1936. Pour son travail en faveur de la science du nettoyage racial. Le Reichstag de l'Allemagne a adopté en 1933, sur un modèle étroitement basé sur le modèle de Laughlin, la prévention des maladies héréditaires chez les enfants, et entre 35 000 et 80 000 personnes ont ainsi été stérilisées au cours de la seule première année complète.
C'est hallucinant ce que peut faire l'intelligence artificielle aujourd'hui.
Et les propos sont juste effrayants.
Oui, c'était déjà l'objet d'un autre film de Costa Gavras, Amen, qui traitait de cette horreur où le régime nazi avait décidé de stériliser massivement des enfants handicapés. Et au final, et c'était tout le propos du film, le pape était intervenu pour faire stopper en fait, la procédure. Et, alors que précisément, il n'est pas réellement intervenu dans le massacre de la population tzigane et juive.
Et homosexuel.
Et moi, ça me fait vraiment penser que Gattaca est quand même avant tout un film politique.
Ah oui, tout à fait.
Alors,
oui, pardon.
Non, mais ça tombe bien parce que je crois que, professeur, vous aviez une cartouche sur un projet ADN.
Oui, c'est évidemment encore Brunhilde qui s'est permis de reconditionner des esprits contemporains impactés par notre thème du jour. Je vous propose de lancer une requête voilà, politique et génétique pour voir ce qu'elle nous propose.
D'accord.
Au sujet, par exemple, de feu M. Le Pen, ça pourrait être intéressant.
Bon, je lance ça.
Allons-y.
Alors, monsieur Laughlin, n'est-ce pas, sitôt la vie apparaît, que la colère naît en moi, et monte telle de fureur, me revient en mémoire l'Algérie, mes filles, et ma détestation pour les hommes de couleur, n'est-ce pas?
Ah oui, c'est particulier.
C'est une simulation, évidemment, tout ça... repose pas sur grand-chose.
Bah, moi, ça me fait penser hein, que, pour de vrai, hein, aujourd'hui, nous, on est capable de mettre en application des rêves souvent ultimes, mais je ne sais pas si ça plairait à M. Pain. C'est, par exemple, le triolisme génétique. Hein, c'est limite ce qu'on voit dans le film entre Irène, Vincent et Jérôme. Mais aujourd'hui, moi, je suis capable de prendre une femme âgée hein, qui a... presque ménopausée et qui voudrait encore avoir un enfant, on peut prendre son ovule de vieille, on peut l'injecter dans un ovule de femme plus jeune et on peut rajouter à ça le spermatozoïde d'un mâle. Alors ça va nous faire un bébé tout à fait viable, sauf qu'il aura trois parents. Je ne sais pas si ça plairait à la famille pour tous et...
Ah, encore du travail.
Mais c'est ce qui existe parfaitement tous les jours lors des inséminations artificielles avec des dons d'ovocytes.
Mais tout à fait. Ouais.
Quelque chose d'extrêmement ordinaire. Alors après, vous, effectivement, Bienvenue à Gattaca est aussi un film d'amour, il faut le dire, avec une personnage principale, Irène, qui tombe amoureuse de Jérôme par le prisme de Vincent. C'est tout le paradoxe des jeux d'ombre où, au final, elle ne rêve que de Jérôme et de ses formidables capacités génétiques, voyant en elle probablement un géniteur parfait, et intellectuellement et génétiquement, et alors que c'est l'esprit de Jérôme dont elle est finalement amoureuse.
Oui, et pas le corps de Vincent. Ah, non, c'est
la vie et le corps parfait de Jérôme, oui.
C'est ça, ouais.
Ah, le corps parfait d'Ethan Hawke. Professeur, on n'avait pas une seconde capsule
de plus douloureuse, oui, effectivement, au sujet de mon frère, évidemment. Bruno Hilda a effectivement retrouvé une capsule simulant son épitaphe.
Je vous lance ça.
Merci, oui.
Monsieur McLaughlin, c'était mon frère. Sur la modeste pierre tombale, sous ses noms, prénom et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription « Mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Voilà, monsieur Laughlin, je le répète, ce que cela signifie pour moi la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura une inscription. Elle sera ainsi libellée. John Laughlin, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Laughlin, et dormez bien, si vous le pouvez.
Ça montre ça me rappelle un pendant de l'histoire et de nos potentiels. C'est vrai que je trouve que chacun, en raison de son conditionnement, estime être dans une position idéale dans la société, du fait que nul n'envie la caste d'un autre. Et c'est ce qui pourrait contribuer peut-être à l'objectif ultime de tout système social, la stabilité. Moi, je vous propose de réfléchir à ça et que on le voit même à la fin du film, juste avant le départ, Vincent risque de se faire coincer. Il n'avait pas prévu, avant de monter dans la navette, qu'il y aurait un ultime test. Et le docteur Lamar se rend compte de la vérité, voit que ça pourrait être son fils et du coup il le laisse partir et je pense que c'est beau quand même dans un film de voir que ça peut se terminer comme ça, quoi.
Écoutez, merci beaucoup messieurs, je vous remercie pour ces échanges intelligents et si éclairants. Merci monsieur Julien Huxley pour votre expertise et merci cher professeur McLaughlin,
je vous en prie,
malgré ce moment tendu pour vous. Pour conclure, chères auditrices et chers auditeurs, place maintenant à la magie d'Actuchronia. Donc pour aller plus loin sur cette thématique et explorer votre côté anti-héros, nous vous invitons à voir, revoir, visiter ou lire. Si vous en avez la possibilité, nous vous recommandons fortement de revoir le film Bienvenue à Gattaca aux éditions DVD format Superbit, sorti en 2003 chez Columbia TriStar, ou l'édition 4K Ultra HD Blu-ray sorti chez Sony en 2021, et évidemment les autres films d'Andrew Niccol et notamment Simone par exemple. Un comics français, Genetics, en 3 tomes par Richard Marazzano et Jean-Michel Ponzio, édité par Futuropolis, qui est sorti en 2006. Aldous Huxley, évidemment le seul, l'unique, pour Le meilleur des mondes, la nouvelle traduction, chez Collector Poche, édition spéciale, qui est sorti le 10 octobre 2024. Et évidemment George Orwell, son pendant avec La ferme des animaux, accrochez-vous aux branches, il est traduit de l'anglais et préfacé par Stéphane Labbé, édition Le livre de poche jeunesse, Hachette 2021. Revoir ou voir Peter Weir, The Truman Show, le combo UHD 4K plus la BD chez Paramount, sorti en 2023. Et puis, si vous avez l'occasion, la série Fringe, que j'idolâtre, créée par Gigi Abrams et Alex Kurtzman et Roberto Orsi, sorti en 2008 chez Fox et Warner. Et puis, si vous pouvez retrouver absolument en DVD le film de Costa Gavras, dont nous parlait le professeur, Amen, chez Pathé en 2003. Voilà, rappelez-vous, chers auditeurs, chères auditrices, on n'est pas forcément l'image que vous percevez de nous. Mesdames, messieurs, c'est le moment de nous quitter. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode du Chronia. En attendant, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail uchronia1984@gmail.com, le tout en minuscule. Retrouvez-nous en podcast sur toutes les plateformes et en particulier sur Ocha et sur le site de Radio Campus et pour les prochains épisodes en FM sur le 92.2, sur le DAB+, sur tous les postes modernes, en direct live sur le site www.radiodijoncampus.com. Uchronia, les chroniques du temps latent.
Il faut se rendre dans l'hyperverse.